Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, bonsoir Thomas.
Bonsoir Sidonie, ça c'est notre générique, on en est sûr.
Il est connu mondialement.
Voilà, salut les curieux.
Nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour aiguiser puis rassasier évidemment votre curiosité. N'hésitez pas, justement, vous, c'est votre émission, alors n'hésitez pas à réagir et poser toutes vos questions au 3210 sur rtl.fr ou alors sur Twitter, bien sûr, vous connaissez le hashtag maintenant, hashtag la curiosité RTL.
Au programme ce soir, un trio de vieilles canailles, Palais Johnny, Monsieur Eddy et Dutronc qui vont secouer Bercy pendant 4 jours, mais celles qui formaient le Rat Pack dans les années 60, Sinatra, Dean Martin et Sammy Davis Jr. Et puis des pompiers capables de traverser des feux sans se brûler, des drones, des robots qui combattent les incendies, c'est à peine de la science-fiction. On vous présentera ces pompiers du futur ou d'après-demain tout à l'heure.
Si votre défaut c'est la curiosité, alors vous êtes bien sur RTL.
Vous écoutez RTL.
À l'origine, la tour Eiffel mesurait 300 mètres, mais depuis, elle a grandi car on lui a rajouté des antennes.
Il y a de la joie, la tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la Seine à pieds joints, puis elle dit: tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et il y a de la joie avec Charles Trenet. Et pourtant, pour certains, elle était le déshonneur de la France. Cette grande bringue en fer qui avait le culot de tutoyer le ciel est quand même devenue le symbole de Paris, le symbole de notre pays, la France. Et aujourd'hui, c'est une star internationale. C'est pourquoi on fête ses 125 ans. Cette année, les 125 ans de la Tour Eiffel. Bonsoir Pascal Varechka.
Bonsoir.
Vous êtes historien et vous allez nous raconter cette histoire turbulente, l'histoire turbulente de ce monument. Allez, on plante le décor, tout commence en 1880. La France est en pleine révolution industrielle. Jules Verne écrit ses romans d'anticipation et le téléphone, le phonographe et la machine à écrire viennent d'être inventés. Qui imagine la Tour Eiffel ?
Il faut revenir en arrière, il faut revenir 60 ans avant, pratiquement, parce que c'est une idée, alors là, je ne s'appelais pas souvent aux Français, mais c'est une idée anglaise, c'est quelqu'un qui en 1833, qui faisait des locomotives, s'est dit, maintenant, avec le fer, avec l'acier, avec la fonte, on peut faire une tour de 1000 pieds, et la tour Eiffel mesure 300 mètres, parce que 300 mètres, c'est ce qu'il y a de plus proche de 1000 pieds en mesure métrique.
Ça veut dire que c'est inventé 60 ans avant, c'est imaginé par...
Il s'appelait... Trévisic, et bon, on saura jamais si son projet était viable parce qu'il est mort un an après l'avoir proposé, donc on saura jamais. Enfin, c'est le premier qui a eu l'idée de faire une... Alors maintenant, on fait des tours bien plus hautes partout dans le monde, mais la première qu'on a fait dans le monde occidental, c'était lui qui a eu l'idée, puis après les Américains ont repris l'idée pour le centenaire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. On leur a dit, c'était en 1874 qu'ils ont proposé, on leur a dit que ça coûtait trop cher. Les États-Unis, à l'époque, étaient peut-être moins riches que la France, je sais pas. Et c'est un peu un hasard si on l'a fait à Paris, parce que c'est le contexte historique, hein, la France avait perdu la guerre, elle avait perdu l'Alsace et la Lorraine, elle s'était un peu remise en colonisant en Afrique et en Indochine, mais il fallait qu'elle montre qu'elle était une puissance. Il fallait qu'elle montre que ses ingénieurs étaient capables de faire des choses justement. Et on a pensé que pour les centenaires de la Révolution, il fallait faire quelque chose de très grand. Et ça, c'est deux ingénieurs français qui ont repris.
Alors comment ce projet justement de la Tour Eiffel arrive sur la table de Gustave Eiffel ?
Il arrive aussi par hasard. Et puis, Gustave Eiffel, il n'aime pas le projet qu'ont fait ces deux ingénieurs. Hein, c'est Émile Nouguier et Maurice Koechlin. Alors, on a oublié leur nom parce que c'est eux qui ont fait. Ils ont dessiné, c'est vrai, c'était une sorte de Derrick. Alors, c'était pas...
Alors, attendez, on va essayer parce que, pour être clair, en fait, donc il y a l'exposition universelle qui doit s'ouvrir en 1889. Mm-hmm. Et il y a un appel d'offres, c'est ça ? On veut trouver...
Non. C'est-à-dire que... On pense, il y a des gens qui pensent dans les milieux politiques ou dans parmi les ingénieurs qu'il faut faire quelque chose de grand. Enfin, l'appel d'offres, non, parce qu'il y a eu un concours qui était absolument bidon, hein, qui était organisé.
C'est-à-dire que Gustave Eiffel était choisi avant même que le concours démarre, c'est ça ?
Oui. Parce que le ministre Lecroix savait qu'il était capable de réaliser ce projet, parce qu'il faisait des ponts, hein, et les viaducs comme Garamie, tout ça. Bon, on sait ce ça tient toujours.
Et la forme de la Tour Eiffel, alors, qui le décide? C'est Gustave Eiffel?
Non. C'est ces deux ingénieurs dont je parlais tout à l'heure, hein, ils ont dessiné une sorte d'Éric. Puis alors, ils le montrent à Eiffel. Ils disent qu'il faut faire quelque chose de grandiose pour 1889. C'est le centenaire de la Révolution, tout ça. Et Eiffel regarde, dit, écoutez, travaillez là-dessus, les gars, si vous voulez. Mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout.
Et, non, mais il n'y croit pas.
Il n'y croit pas du tout. Alors eux, ils sont un peu dépités, ils vont faire appel à un architecte, Sauvestre, qui va redessiner ça. Alors au goût de l'époque, c'est très... Enfin, il met du kitsch. Hein. Bon, c'est quand même...
Des volutes.
Des volutes partout. Il avait prévu des anges de la renommée, qui sont de la trompette aux quatre angles. Je ne sais pas si vous voyez...
Loin de la sobriété de la
On a échappé à ça, heureusement.
Oui, on a échappé à ça. Puis des arcades qui ne servent à rien. Et puis là, Eiffel... il dit, oui, c'est pas mal. Et effectivement, bon, le ministre le croit, bon, qui est en médaillon sur la couverture du bouquin, c'est lui qui a tenu le projet à bout de bras. Alors, on raconte aussi, le ministre était vraiment franc-maçon. Et que, ça c'est pour la petite histoire, mais il y a un côté vrai, on construisait le Sacré-Cœur à l'époque. Et évidemment, il y a des gens parmi les francs-maçons qui étaient républicains, qui étaient laïcs, qui avaient envie qu'on fasse quelque chose de plus haut. Le Sacré-Cœur, qui montait pas vite d'ailleurs, hein, parce que c'est pas les Parisiens qui ont donné de l'argent pour payer construire le Sacré-Cœur. Hein, c'était et donc c'est possible. Bon, Eiffel, on a raconté qu'il était aussi franc-maçon, il n'était pas à l'époque. Hein, donc c'est pas une question de copinage, c'est vraiment que c'est un homme qui il a inventé la construction en kit. Il faisait des ponts en métal qu'il a envoyés en Indochine, il y en a encore.
Hein, et donc il applique la même recette à la Tour Eiffel. C'est... On va continuer d'en parler dans un instant, l'histoire de la Tour Eiffel. C'est une série de chiffres hallucinants. 18 000 pièces métalliques justement assemblées par 2,5 millions de rivets pour un poids total de 10 100 tonnes. On vous raconte les coulisses de ce chantier monumental sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
On raconte l'incroyable histoire de la Tour Eiffel qui est née en 1889, en tout cas qui a fini d'être érigée en 1889 à l'occasion de l'exposition universelle de Paris. On en parle avec l'historien Pascal Ravechka. Dites-moi, la Tour Eiffel, quand le projet apparaît, il y a des articles qui présentent ce projet de Gustave Eiffel. Ça fait couler beaucoup d'encre, ça fait rager pas mal d'artistes. Qu'est-ce qu'il lui reproche à cette Tour Eiffel?
En fait, d'abord, on est à Paris. Hein. Vous vous rappelez les colonnes de Buren? Quand on est les gens qui venaient écrire tous les jours...
Au Palais Royal.
Au Palais Royal, oui. Et c'est un peu la même chose. Donc, la nouveauté, on a écrit que c'était un projet que même la commerciale américaine, l'Amérique n'en voudrait pas, que ça allait défigurer Paris, enfin, que ça allait... les étrangers ne voudraient plus voir la plus belle ville du monde, que... Il y a eu un article qui disait que c'était en plein cœur de Paris. Bon, à l'époque, surtout, c'était loin d'être en plein cœur de Paris. Hein. C'était un terrain militaire, en plus. C'était un no man's land.
Sur le champ de Mars.
C'était le champ de Mars, oui.
Il n'y avait rien autour. Très peu d'habitations.
Il y avait très peu d'habitations, parce qu'effectivement, entre le 7e et puis le 15e, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'espace. Mm-hmm. Il y avait juste ce petit square que la ville avait obtenu, négociation avec l'État, avec l'armée, enfin c'est toujours très compliqué à Paris. Hein, l'armée avait le terrain qui allait jusqu'à la Seine. Puis la ville a obtenu un petit square pour relier ces deux morceaux de Paris. Mmh. Et bon, dire que alors le ministre Lecroix a répondu avec humour en disant qu'il comprenait bien que si les gens avaient protesté plus tôt, on aurait protégé ce magnifique terrain qui pouvait tellement inspirer les artistes et tellement inspirer les poètes. On voit des photos, hein, avant la construction, il n'y avait rien.
C'était un terrain vague. Alors la construction va commencer. Il y a beaucoup, j'imagine, d'ingénieurs, de dessinateurs pour travailler sur le projet.
En fait, curieusement, oui, il y a plus de dessinateurs et d'ingénieurs que d'ouvriers sur le chantier. C'est vraiment tout se fait en amont. Parce que, bon, je disais tout à l'heure, Eiffel, c'est la construction en kit. Donc, on doit prévoir, on doit dessiner. Il a écrit dans le bouquin qu'il a publié en 1900 que si on mettait tous les schémas côte à côte, on aurait 4000 mètres carrés de papier.
4000 mètres carrés.
4000 mètres carrés, c'est grand.
En fait, toutes les pièces sont conçues dans un atelier. Il se trouve où cet atelier ?
Il se trouve à Levallois-Perret. Et les pièces sont toutes faites dans l'atelier. Il y en a certaines qui sont préassemblées et on les apporte sur le chantier. Alors au début, on a construit des rails qui vont vers les quatre pieds. Pour acheminer. Alors c'est
quand... Et les fondations, pardon, mais là je suis en train de me dire, les fondations d'un édifice comme celui-là, ça a dû être gigantesque à mettre en place.
C'était gigantesque, et puis en plus, comme à cause de cette espèce de litige entre la ville et l'armée, il fallait du temps pour la construire. Si l'armée avait voulu par hasard récupérer son terrain tout de suite, il aurait fallu la démonter tout de suite. Vous imaginez un peu, ça aurait été abominable. Donc, on a imaginé la construire là, sur le square, qui appartenait à la ville. Mais les deux pieds, les proches de la Seine, sont en terrain inondable. C'est un ancien bras comblé de la Seine. Mmh. Donc, il a fallu...
Les enterrer de manière profonde, ces fondations, c'est quoi, 15 mètres, c'est ça ?
15 mètres de profondeur, c'est des
C'est des ouvriers. Je crois qu'en plus tout est fait à la pelle. C'est ce qu'on dit dans votre livre.
C'est ça qui est incroyable. C'est incroyable. C'est très moderne à l'époque. Hein. C'est une réalisation fascinante. Mais ils ont des charrettes tirées par des chevaux. Ils ont des pioches. Ils ont des pelles. Bon, ils utilisent l'air comprimé parce que on descend des caissons. Les ouvriers travaillent en dessous et ce qui retire la terre, la boue, elle est sortie par des seaux. Par des cordes et c'est enlevé par des charrettes.
Mmh. Ce qui étonne à l'époque aussi, c'est le nombre d'ouvriers qui est plutôt faible, c'est ça, sur le chantier.
Il est très faible pour un chantier aussi considérable. Ça n'a jamais, au maximum, ça a atteint 250 personnes, ce qui semble dérisoire.
Et comment on explique ça ? C'est-à-dire que Gustave Eiffel pensait que ses ouvriers étaient des surhumains, ils pouvaient faire le boulot de quatre personnes en même temps ?
Non, d'abord, c'était des ouvriers qui avaient travaillé sur les viaducs, dans le sud de la France, au Portugal. La plus grande partie de son équipe, c'était des gens qui avaient déjà travaillé. Donc, ils savaient quel genre de travail. Simplement, là, c'était plus haut, il n'y avait pas d'eau en dessous, mais c'était plus au moins la même chose. Et lui, c'était le préassemblage, tout était calculé à l'avance. Donc, effectivement, il devait monter les pièces et riveter. Et voilà, et les pièces arrivaient, elles étaient parfaites.
Et bien justement, on va raconter, on va vous faire découvrir, on va vous faire monter sur la tour Eiffel et aller à la rencontre de ces ouvriers du ciel. On les appelait les charpentiers du ciel, les voltigeurs, les riveurs, des noms qui font rêver. Et à tous ces gens qu'on doit remercier parce que c'est grâce à eux qu'on a une jolie tour Eiffel. On en parle dans un instant sur RTL.
On est bien entre curieux.
Vous écoutez RTL.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
La Tour Eiffel fête ses 125 ans, l'occasion pour les curieux que nous sommes de raconter l'aventure de sa construction avec l'historien Pascal Varechka qui publie La fabuleuse histoire de la Tour Eiffel. C'est aux éditions Prisma. Pascal Varechka, pour construire la Tour Eiffel, on l'évoquait rapidement tout à l'heure, il y a évidemment différents types d'ouvriers. Ceux qu'on appelle par exemple les voltigeurs, joli nom, que font-ils ?
En fait, ils montent les pièces en l'air. Parce que maintenant, on a des harnais, on a des choses. Ils n'avaient rien du tout. Ils montaient, c'était les charpentiers qui faisaient des petits échafaudages. Alors, il y avait des barrières, pas comme sur les gravures qu'on peut voir dans le bouquin, qui nous ont fait rire vraiment quand on a préparé le bouquin.
Parce qu'elles sont nées de l'imagination des dessinateurs, ces gravures. Ils n'étaient manifestement pas montés sur les échafaudages,
De toute façon, ils n'étaient ni invités à monter et ils n'avaient pas non plus les...
Mais ils étaient précaires, ces échafaudages, quand même, finalement, pour les ouvriers de la Tour Eiffel.
Malgré tout, ils étaient moins précaires que ce qu'on voit là. Parce que quand il y a une image en particulier, il y a des planches qui sont comme ça. Enfin bon, ça repose sur rien.
Comment ils bossent en vrai, les voltigeurs de la Tour Eiffel ?
Ils ont donc chaque jour, on avance vers le haut et les charpentiers construisent des plateformes rectangulaires avec des petites rambardes. Et puis.
Ils prennent des risques, c'est dangereux ?
Oui, c'est dangereux. Mais ça, ils le savent, Eiffel le sait. Enfin, ils ont eu l'habitude, ces gens-là, de travailler hein, sur. Bon, vous voyez le viaduc de Garabit. C'est pareil, si on tombait.
Le viaduc de
Garabit, dans. Je ne sais plus dans quel département c'est. Bon, c'est dans le sud-ouest de la France. Bon, si on tombe, même s'il y a de l'eau en dessous, je pense qu'on tombait plutôt sur un rocher et on risquait sa vie. Bon, ils avaient.
Mais ça veut dire qu'il y a eu des morts pendant ce chantier de construction de la Tour Eiffel?
Alors. Curieusement, bon, on a dit qu'il n'y en avait pas eu, il y en a eu un seul, ce qui est, bon, je dirais dérisoire, enfin, ça fait un peu cynique, mais par rapport à un tel chantier.
Sur 200 ouvriers, c'est ça?
C'est, oui. Ouais. C'est bon, ça a duré quand même près de 2 ans. Hein,
de quoi est-il mort, cet ouvrier?
Il est mort à la fin quand on mettait en place les ascenseurs. Et il a. Bon, on a révélé ça il n'y a pas longtemps, il y a une émission sur Arte et son petit-fils, je crois. Avait témoigné. Bon, Eiffel n'a pas voulu gâcher la fête et donc on n'en a pas parlé.
Il est tombé d'où? Il est mort comment?
Il a reçu un ascenseur qui s'est détaché au moment où le. Voilà. Et donc Eiffel a offert à sa veuve de l'argent pour retourner en Italie et pas hybrider. Quand on pense qu'à la même époque, on a construit en Écosse un pont. Sur un des fjords écossais, le Firth of Forth, si je me rappelle, il y a eu 40 morts.
Oui, donc vous dites, en comparaison, ce chantier a été finalement relativement safe, sécurisé pour les ouvriers. En même temps, vous venez de nous dire que Gustave Eiffel a un peu étouffé le scandale qu'aurait pu provoquer la mort de cet ouvrier. D'une manière générale, c'était un bon patron, Gustave Eiffel. Il était dur avec les ouvriers. Il était comment?
Il était. Oui, non, parce que c'est un type. Il avait du charisme. Hein. Les gens étaient fiers de travailler sur son chantier.
Les ouvriers avaient conscience d'ailleurs de travailler sur un projet aussi important pour eux, la Tour Eiffel. C'était une fierté de bosser pour tour qui s'appelait Eiffel.
C'était quand même, enfin à l'époque elle s'appelait pas Eiffel, mais c'était quand même quelque chose de jamais vu. Hein. Et ils savaient qu'eux, ils avaient construit des choses qui étaient déjà remarquables pour ceux qui travaillaient là, mais que là c'était inouï quoi à l'époque. Vraiment, c'était inouï. C'est pour ça que d'une part ça déplaisait aux gens et puis et d'autre part et Eiffel, je sais pas, je crois que j'ai raconté dans le bouquin. Bon, à Bordeaux ils construisaient un pont, il y a un de ses ouvriers qui est tombé à l'eau, il s'est jeté à l'eau pour le sauver. Donc il était capable de refuser des augmentations parce qu'il y a eu deux grèves. La première il a accepté, la deuxième il a dit non, ça suffit. Mais il tenait au bien-être de ses ouvriers. Il a installé, dès que le premier étage a été fait, une cantine pour qu'il n'ait pas effectivement à descendre, remonter, etc. Alors la vente d'alcool, vous pouvez imaginer, était très sérieusement
surveillée, heureusement. Oui, vous l'avez dit, Pascal Varechka, ça ne s'appelait pas la Tour Eiffel, évidemment, au début. Comment ça s'appelait? Il y avait un nom, d'ailleurs.
La Tour de 300 mètres. Hein, et Eiffel a écrit en 1900 un bouquin qui s'appelait La Tour de 300 mètres. Et puis, c'est après le succès.
C'était pas un bon nom. C'est pour ça que ça a changé rapidement.
C'est vrai que non, c'est pas marquant, la Tour de 300 mètres.
Non, c'est pas marquant. Mais c'est marrant.
Ou
parce
le grand
que...
A.
La Tour Eiffel, puis en anglais on peut faire un jeu de mots parce que Eiffel ça veut dire plein la vue, etc. Bon,
elle mesure combien la Tour Eiffel à cette époque en 1889 quand elle est
300 mètres
dévoilée?
Exact. Le haut, là où Eiffel monte et hisse le drapeau. Hein, avec fierté, un grand drapeau, et dit la France est le seul pays dont le drapeau a une rampe de 300 mètres. Et la tour faisait 300 mètres.
Alors elle a grandi, la tour Eiffel
Maintenant, on a mis des antennes. Mais en réalité, le bâti fait toujours 300 mètres.
Donc avec les antennes, ça fait 324 mètres,
oui,
c'est ça.
C'est...
Voilà. Alors l'inauguration de l'exposition universelle, évidemment, ça approche, c'est en 1889. Comment les Parisiens, comment les Français, les visiteurs du monde entier vont réagir en découvrant cette tour qui ne s'appelle pas encore Eiffel? Réponse tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde.
Paris sera toujours Paris, Maurice Chevalier. Comment un ingénieur spécialisé dans la fabrication de ponts et de charpentes métalliques va-t-il devenir une star internationale et traverser le temps? On vous raconte évidemment l'histoire de Gustave Eiffel et de sa tour avec vous, l'historien Pascal Varechka. D'ailleurs, Eiffel, c'est pas son vrai nom, il paraît.
Bien, en fait, son arrière-grand-père, je crois, est venu d'Allemagne, de la région de l'Eifel, en Rhénanie, et il s'appelait Bönninghausen. Et en 1878, Eiffel avait construit des choses pour l'exposition universelle, déjà. Il a reçu la croix de chevalier, la légion d'honneur, et j'ai regardé dans les archives, c'était toujours Bönninghausen dit Eiffel. Et puis, il a dû après la guerre de 70, un nom allemand, c'était pas très bien. Hein, en France, il a dû se faire traiter deux ou trois fois de Prussien. Et il a demandé, c'est légal d'ailleurs en France, ça existe toujours, à changer de nom. Donc il a pris le nom de Eiffel.
Et Eiffel, c'est donc le nom de la région d'origine de sa famille en Allemagne, c'est ça ?
La région d'origine de sa famille.
D'accord.
Voilà. Mais s'il n'avait pas changé de nom, cette tour.
S'appellerait la tour ? Bönninghausen.
Alors, la Tour Eiffel.
C'est mieux la Tour Eiffel.
Oui.
En tout cas, on s'y est habitué.
Eiffel a été quand même très critiquée à ses débuts, quand elle était à l'état de projet. Et en 1889, quand elle est inaugurée lors de l'exposition universelle de Paris, comment est-ce qu'elle est accueillie, cette Tour Eiffel ?
D'abord avec curiosité, parce que bon, il faut pas oublier que elle a été inaugurée un peu après l'exposition universelle, et pendant 10 jours, il n'y avait pas d'ascenseur. C'est-à-dire que les gens, les dames en grande robe, en crinoline, les messieurs en haute forme, montaient à pied. Et à l'époque, on pouvait monter jusqu'au 3e étage à pied avec un escalier. Enfin, de nos jours, on dirait que c'est complètement fou parce qu'il n'y avait pas de rambarde. Enfin,
combien de marches ?
À l'époque, il y en avait, tous les journalistes ont signalé, 1792, ce qui était très symbolique. C'est la date de la proclamation de la République.
La première République.
Ouais. Bon, maintenant, il y en a moins. Je sais pas, on a...
1643, je crois.
Oui, on a retiré les escaliers en colimaçon. On en a vendu, d'ailleurs, aux États-Unis, des morceaux d'escaliers. Il y en a dans un musée parisien. Alors, j'ai oublié
Et maintenant, c'est une course qu'on peut faire en basket et petits shorts pour battre le record de la montée de la Tour Eiffel.
Est-ce qu'on la trouve belle, cette Tour Eiffel, alors, en 1889, quand on la découvre, les Parisiens qui l'ont beaucoup critiquée, les visiteurs étrangers, ils sont émerveillés?
Ben oui, parce que en fait, c'est une œuvre d'art, c'est la dentelle de
d'acier.
Fer. Non, ouais. C'est du fer. C'est pour ça qu'elle est repeinte soigneusement très souvent. C'est pas de l'acier, parce que l'acier serait pesé encore plus. Alors déjà, vous avez dit le poids tout à l'heure.
10 100.
C'est quand même imposant.
Tonnes.
Mais les gens sont fascinés. D'abord parce qu'ils peuvent monter. Enfin, jamais ils avaient pu voir Paris d'aussi haut.
Ah oui, c'est un point de vue extraordinaire.
Et puis il y a plein de. On a installé des restaurants. On vend les premières cartes postales, pratiquement, c'est à la Tour Eiffel qu'on les vend pour les gens qui ont envie d'écrire, qui sont montés là. Il y a un bureau du Figaro. Une édition spéciale du Figaro, qui est imprimée devant les gens.
Attendez, il y a une imprimerie.
Et une rédaction,
mais au premier étage de la Tour Eiffel, c'est ça ?
C'est au 2e étage, il me semble. Et là, je me rappelle pas à quel
c'est
étage.
C'est génial. Mais et donc, les visiteurs voyaient le journal en train de se faire.
Ils voyaient le journal en train de se faire. Puis il y avait une place pour ils pouvaient acheter le journal et on mettait à Monsieur Machin qui a fait l'ascension, à Madame Truc qui a fait l'ascension tel jour. Voilà, c'était un certificat. Et il y a eu une édition en partie bilingue quand le chat de Perse est monté sur la Tour Eiffel.
Ce qui est incroyable.
Le chat d'Iran. En fait, on dirait aujourd'hui le chat d'Iran, mais c'était chat de Perse. Effectivement. Il y a eu beaucoup de visiteurs illustres comme ça sur cette Tour Eiffel.
Son gendre avait mis un livre d'or tout en haut, sur la troisième plateforme. Et Eiffel, c'était tous les visiteurs, les souverains. Et c'est marrant parce que dans son livre, il a noté les gens une partie. Donc il n'a gardé que les souverains, effectivement, y compris... Je dirais des souverains d'opérette, c'est-à-dire des gens qui étaient placés par les administrateurs coloniaux, qui étaient choisis pour jouer contre le cousin, et qui étaient reconnus à un moment comme roi,
Je crois que j'ai lu Buffalo Bill aussi dans votre
Buffalo
livre.
Bill, mais
Buffalo Bill est venu sur la Tour Eiffel.
Oui, bien sûr. Bah, Buffalo Bill, à chaque fois qu'il y avait un grand événement, il venait avec son spectacle. Il avait le sens, lui, du spectacle.
Et il y avait Thomas Edison aussi.
Alors, pour Eiffel, c'était le personnage, c'était le plus important, parce que Sarah Bernhardt est venue, mais il n'a pas mentionné.
C'est l'inventeur du photographe.
Oui, ils ont ensemble, ils avaient des choses à se dire, ils voyaient l'avenir tous les deux, ils sont... pour Eiffel, c'était vraiment, c'était Edison, même si Edison avait été le seul à visiter la tour, il aurait été satisfait. Quoi,
ça aurait suffi à son bonheur.
Il n'a pas noté dans son livre, pas plus que Sarah Bernhardt, lui, le spectacle, tout ça, ça ne l'intéressait pas.
Les inventeurs.
D'ailleurs, autour de la première plateforme, il y a les noms de scientifiques qui se sont rendus utiles entre 1789 et 1889. Alors ce qui est drôle, c'est que certains n'y sont pas parce que leur nom était trop long pour tenir sur les pages. Donc le choix est aléatoire.
On parle beaucoup des noms dans cette émission. La Tour Eiffel,
des chiffres et des noms.
Oui, la Tour Eiffel, elle devait être éphémère, évidemment, comme de nombreuses créations de cette exposition universelle de 1889. Et pourtant, évidemment, elle a traversé le temps jusqu'à nous. Qu'est-ce qu'il a acquis ou quoi l'a sauvée de la destruction ? On vous raconte cette incroyable histoire sur RTL.
Et c'est Zaz qui chante « Paris sera toujours Paris ».
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Spectacle éblouissant que celui de la Dame de Fer ce soir, acte 1. Des nuées d'anges surgissent, flambeau à la main, sur l'air de la Marseillaise. Puis on entend des tambours bigrement révolutionnaires, aussitôt disparus. Voilà que Madame la Tour Eiffel s'enflamme dans un feu d'artifice. Des funambules au premier étage, des acrobates partout. La tour devient brusquement verte, éclate alors des geysers. Une reine soutenue par des esclaves défile. À la fin du cortège, on compte 10 dromadaires. On passe alors à l'ère industrielle, celle des vieilles Citroën. Des petits rats apparaissent. On entend Maurice Chevalier, Piaf, Joséphine Baker. On voit des canotiers, des vélos, le pont de Iéna s'enflamme. De mille feux, il s'éclaire et dire que le spectacle n'est même pas terminé.
Voilà, Archive RTL pour le centenaire de la Tour Eiffel. Reportage signé Xavier Benerozo à l'époque. Cette année, c'est le 125e anniversaire que l'on fête. Et pourtant, elle a failli être démontée. Pascal Varechka, vous êtes historien et vous nous racontez l'histoire de la Tour Eiffel depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui l'a sauvée ?
Ben, Eiffel s'est attaché à cette tour puisqu'elle avait été construite et il a tout fait pour montrer qu'elle pouvait être utile. Bon, il avait pensé que ça pouvait être utile pour faire des études météorologiques, parce qu'on était très haut, on pouvait étudier les vents, on pouvait étudier... Et puis,
ça veut dire qu'il installe plein de matériel, Gustave Eiffel, dans la Tour Eiffel, pour mener ses expériences ?
Oui,
au troisième... Ou il l'ouvre à des scientifiques, peut-être ?
Il s'est mis d'accord avec des gens de différents instituts, et puis une partie du troisième étage, il y avait deux niveaux. Hein, le niveau où était son appartement, en quelque sorte, où il recevait des gens parmi lesquels il y avait ceux qui avaient protesté contre la Tour Eiffel en 1887. Hein, c'est comme Gounod qui jouait du piano. Et puis, il y
avait... Qui avaient retourné leur veste, donc, on a bien compris.
Oui, en quelque sorte. Sauf Maupassant, qui disait qu'il venait manger tous les jours, il venait dîner à la Tour Eiffel, parce que c'est le seul endroit d'où il ne la voyait pas. Lui, c'était vraiment...
Parce qu'il faisait partie des opposants farouches, avant sa construction.
Lui, c'était vraiment...
Eiffel veut démontrer qu'elle sert à quelque chose.
Il veut démontrer qu'elle sert à quelque chose, et puis... Donc c'était 20 ans. Hein,
elle devait durer 20 ans, cette tour Eiffel, et être démontée.
Et puis, il a quand même fait beaucoup de propagande, notamment auprès de l'armée, en disant si en 1870 on avait eu ça, on aurait pu suivre les mouvements des troupes autour de Paris. Et puis la radio, les transmissions radio pour l'armée ont commencé. Et là, l'armée s'est rendue compte que ça pouvait effectivement servir à quelque chose.
Bah d'ailleurs, c'est la première antenne de radio, elle est montée sur la Tour Eiffel.
Oui, en plus, c'était l'endroit le plus haut. Hein, on n'allait pas la monter sur le Sacré-Cœur qui n'a été achevé qu'en 1915.
Donc il a réussi son pari, Gustave Eiffel, de la rendre utile, la Tour Eiffel.
Il a réussi, oui, parce que effectivement, et maintenant on a monté de plus en plus d'antennes. Vous disiez tout à l'heure, oui, ça fait combien, 25 mètres de plus, ouais. Mais de son vivant, il a démontré qu'elle était utile.
Est-ce qu'elle s'abîme, la Tour Eiffel ?
Eh bien. Non, parce qu'on l'a repeint soigneusement. Alors, c'est tous les 7 ans, si je me souviens bien.
Hein,
c'est la même
couleur ?
Alors non, elle a beaucoup changé de couleur. Alors, au début, non, mais c'est... Alors déjà, les journalistes, au moment...
Mais c'est une femme.
Oui, certainement. Mais
oui, c'est comme si elle changeait de coiffure.
Mais oui.
Et puis maintenant, il y a les éclairages. Je me rappelle l'année de la Chine. Était éclairée en rouge. Mmh. Et j'étais avec une amie de ma fille, une chinoise qui venait là, et puis elle a dû penser que j'étais très fort parce qu'on débouche, je sais plus, en haut de l'Arc de Triomphe, et la Tour Eiffel qui se met à être. Donc elle a changé de couleur. Au début, les journalistes ne savaient même pas dire exactement Enfin, il y avait.
Quelle était sa couleur ?
Oui, quelle était sa couleur ?
Verte, que... grise.
Non, elle était plutôt rouille. Et le sommet était presque jaune d'or. Hein. C'était pour faire en sorte que les couleurs soient. Je ne sais pas s'ils auront étudié les principes de chevreuil pour la couleur. Il faut que ça soit plus foncé en bas, plus clair en haut pour se perdre un peu dans les nuages.
Hein. Sans doute.
Oui.
Est-ce qu'elle bouge en fonction du vent ? Est-ce qu'elle est sensible à ça ?
Est sensible au vent. Mais alors, elle bouge très peu. C'est incroyable. Hein.
Ah, je suis rassuré.
Non, mais au maximum, je ne sais plus, j'avais vu, mais c'est quelque chose comme 60 cm au sommet. Hein. C'est assez dérisoire quand même. Eiffel, c'est un monsieur que justement, il faisait tout en treillis, hein, les ponts notamment, et puis ça aussi, parce que le problème, c'était la résistance au vent.
Est-ce qu'il a laissé des consignes, tiens, Gustave Eiffel, pour l'entretien de sa tour ?
Ah, il a sûrement laissé, oui, pour la peinture, tout ça, parce que c'était quelqu'un de très, très tatillon.
Méticuleux,
oui. Donc, je ne sais pas s'il a laissé vraiment des consignes en tant que tel, mais enfin, on continue à respecter, les principes qu'il a donnés. C'est-à-dire, c'est lui qui a dit, pour que ça tienne quelque chose en métal, il faut que ça soit peint et repeint.
Et soigneusement
repeint. Plus de 250 millions de visiteurs, vous imaginez, de tous les coins de la planète, depuis son ouverture en 1889. C'est une belle revanche quand même pour la Tour Eiffel, ce vilain petit canard du départ. À lire et à voir, à feuilleter la fabuleuse histoire de la Tour Eiffel aux éditions Prisma.
Vous écoutez RTL.